Alléluia. Nous sommes à la troisième semaine, la semaine 3, du cours Les fondements de la foi chrétienne. Vous allez voir que tout est vraiment basé sur la parole parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de versets que nous allons lire. Alors, la semaine 3, le titre, c'est « Qu'implique la nouvelle vie en Jésus-Christ? » Les deux premières semaines, on a parlé beaucoup du salut. Maintenant, on parle « Qu'est-ce que ça implique la nouvelle vie en Jésus-Christ? » Premièrement, un changement intérieur. Après la repentance et la conversion, il y a un changement majeur dans notre être intérieur. Ce changement a fait de nous autre chose que ce que nous étions. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Nouvelle créature, c'est nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme s'il voulait s'assurer, Paul, qu'on comprenne ce que ça veut dire une nouvelle créature. C'est que les choses anciennes sont passées. Ce que nous étions, c'est fini. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Notre être intérieur, il y a un changement qui s'est fait. La Bible utilise plusieurs expressions pour décrire cette réalité. Mort au péché et vivant en Jésus-Christ. Dans Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Avant, c'était l'inverse. On était mort pour Jésus, pour Dieu, mais on était vivant pour le péché. Alors, il y a un changement complètement. Notre expression « né de nouveau » dans Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et tout de suite, après, je vais enchaîner avec l'autre expression, « né de l'Esprit ». Jean 3, verset 5, « Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » L'eau, c'est également un symbole du Saint-Esprit. Donc, on est né de nouveau, on est né de l'Esprit. C'est pour ça qu'on est une nouvelle créature. On est né une fois physiquement, matériellement, corporellement, mais lorsqu'on vient à Jésus, on est spirituellement. Alors, on est une nouvelle créature. Une autre expression, « enfant de Dieu » dans Romains 8, verset 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais seulement ceux qui acceptent Jésus-Christ sont des enfants de Dieu, sont adoptés dans la famille de Dieu. Ensuite, nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. C'est quelque chose. Romains 8, verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Souffrir avec lui, ça peut vouloir dire de persévérer jusqu'à la fin, parce que c'est un combat, la vie spirituelle, la vie chrétienne, ici-bas. Autre expression qui décrit notre nouvelle créature, notre nouvelle nature, citoyen des cieux. Avant, on était de la terre, attachés au bien de ce monde. Mais là, on devient des citoyens des cieux, attachés aux choses du ciel, aux choses célestes, aux choses spirituelles. Dans Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous attendez Jésus-Christ? Est-ce que vous le croyez qu'il va revenir? Il va revenir où? Il va revenir des cieux, puis il va venir à notre rencontre. Alléluia! Et nous allons monter à sa rencontre. Alléluia! Parce que nous sommes des citoyens des cieux, nous allons rentrer dans notre patrie céleste. Alléluia! Nous sommes seulement que des ambassadeurs ici. Notre patrie, c'est en haut. Alors, un autre titre, c'est « Esclaves de Dieu ». Nous sommes esclaves de Dieu. Dans Romains 6, verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché, affranchi veut dire libéré, et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Merci Seigneur. Autre expression, « ambassadeur de Christ ». 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est lorsque nous annonçons le message de l'Évangile. Soyez réconciliés avec Dieu. Et le moyen pour être réconcilié que Dieu a décidé, c'est le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous sommes aussi des soldats de Christ. 2 Timothée 2, verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes dans une armée, nous sommes engagés dans un combat contre les forces spirituelles, mais nous sommes du côté du vainqueur, n'est-ce pas extraordinaire? Nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ, c'est merveilleux. Nous connaissons déjà l'issue de la bataille, l'issue de la guerre, c'est fantastique. Et la dernière expression, c'est saint. Nous sommes des saints. 2 Corinthiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Nous sommes des saints, nous avons été sanctifiés. Mais qu'est-ce que la sanctification? C'est ce que nous allons voir dans notre prochain point. Le mot sanctification signifie rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu. Le sens du mot indique donc que le chrétien est mis à part pour Dieu au moment de sa conversion et qu'il devrait vivre par la suite pour Dieu, séparé des souillures de ce monde. La sanctification du chrétien comporte deux aspects, la position et la progression. Voyons d'abord la sanctification de position. Nous étions tous des pécheurs. Mais nous sommes devenus des saints grâce à la sainteté de Christ qui nous a été imputée. Ce n'est pas parce que nous étions fins, beaux, peu. Non, nous étions des pécheurs. Et il n'y a rien qu'on aurait pu faire pour être sanctifiés. Mais c'est parce que Christ nous impute sa sainteté à lui. Alors, imputer signifie que cette sainteté ne vient pas de nous, elle appartient à Christ. Elle fait partie des bénéfices du salut en Jésus-Christ. Puis sont très nombreux les bénéfices du salut. Mais ça, c'en est un qui est extraordinaire, le fait de devenir saint. Dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Merci Seigneur. » Lorsqu'il dit « quelques-uns de vous », ça ne signifie pas que les autres n'étaient pas pécheurs. Là. Ça veut simplement dire qu'on n'était pas tous des infâmes, tous des voleurs, tous des cupides. Mais une chose qui est sûre et certaine, nous étions tous des pécheurs. Mais nous avions différents péchés. C'est ça que ça veut dire. Les péchés diffèrent d'une personne à l'autre. Dans Romains 3, verset 23, c'est mentionné « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Par la foi, nous mourons avec Christ sur la croix. Nous mourons à notre ancienne manière de vivre pour ressusciter par la foi avec Christ et vivre dorénavant pour Dieu. Notre position devant Dieu n'est plus celle d'un pécheur, mais celle d'un racheté par Christ qui a revêtu la sainteté du Fils de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce de Dieu, car Dieu voit l'œuvre de son Fils lorsqu'il nous regarde. Alors, c'est merveilleux. Notre sanctification, c'est l'œuvre du Dieu trinitaire, du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que Dieu le Père, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, c'est écrit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Il est à l'œuvre dans notre sanctification. « Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'esprit, l'âme et le corps, la personne entière. Dieu le Fils est impliqué aussi. Dans Hébreux 13, verset 12, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » En se sacrifiant à la croix, il nous a offert cette sanctification. Dieu le Saint-Esprit, dans Romains 15, verset 16, « D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. » Alors, c'est la personne de Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est à l'œuvre dans notre sanctification. Maintenant, voyons voir la sanctification progressive maintenant. Ça, c'est notre position. Devant Dieu, en Christ, nous sommes des saints parce que nous avons le bénéfice de la sainteté de Christ. Mais puisque nous sommes saints dès notre conversion, nous devrions nous attendre à ne plus pécher. Mais ce n'est pas le cas. Nous le voyons dans notre vie. Il ne faut pas dire que nous ne péchons plus jamais parce qu'on a de la difficulté avec notre nature charnelle. Elle ne fait plus la loi comme avant, parce que dorénavant, c'est notre nouvelle nature, notre nature spirituelle qui est en contrôle. Mais par contre, elle continue de s'opposer au désir de l'esprit. Dans Galates 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est un des aspects du combat pour la foi que le chrétien doit mener jusqu'à sa réunion avec Christ. C'est jusqu'à temps qu'on soit avec lui qu'on va avoir cette lutte-là entre notre chair et notre esprit. Dorénavant, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. C'est pourquoi il est écrit « afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez ». Parce qu'en toute chose, nous devons regarder la volonté de Dieu. Nous avons été libérés du péché, mais afin de devenir libres pour servir Dieu, pas nous-mêmes. C'est ça la véritable liberté, être libre du péché pour servir Dieu. Le chrétien est appelé à fuir les convoitises de la chair et à rechercher la sainteté en toutes choses. Dans Éphésiens 4, versets 20 à 24, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et Éphésiens 4, 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » La vocation, c'est la vie chrétienne, la vie en Jésus-Christ. Éphésiens 5, versets 8 à 11. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Et ne prenez point part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La meilleure façon de condamner les œuvres des ténèbres, c'est de ne pas y prendre part. Le changement opéré en nous doit se voir à l'extérieur et devenir un puissant témoignage. On ne doit pas juste avoir un témoignage verbal, mais ça doit se voir aussi dans notre vie de tous les jours, dans notre comportement. Dans Romains 12, versets 1 à 2, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Comment cela est-il possible? Comment discerner la volonté de Dieu? Comment notre intelligence peut-elle être renouvelée? Eh bien, premièrement, par la parole de Dieu. Il faut s'imprégner de la parole. Il faut s'imprégner. Plus on la lit, plus on la médite, plus on se l'accapare, plus on en est rempli, plus notre intelligence est renouvelée, plus nos pensées deviennent les pensées de Christ. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il n'a pas dit « je sais ta parole contre mon cœur » comme ça, ça ne donne rien. Dans mon cœur, ça veut dire que tu l'as lu, tu l'as entré dans ton cœur. Et tu la médites. Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Ça existe, la vérité. La vérité absolue, elle existe. Ça existe, la vérité. Il y en a qui disent que non, ça n'existe pas. On ne peut pas dire qu'on connaît la vérité. Oui, on la connaît, elle est ici, la vérité. C'est la parole de Dieu, c'est le Dieu créateur. 1 Pierre 1, 22 et 23. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Deuxièmement, par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Vous voyez comme le Seigneur est bon, hein? Il ne nous laisse pas tout seul. Il ne nous laisse pas sans outils, sans aide, sans support. Il est toujours là avec nous. Il nous donne sa parole. Il nous donne le Saint-Esprit. Il est fantastique. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, ça c'est la sanctification, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est l'Esprit qui le fait. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Et nous avons vu que la vérité, c'est la parole. L'Esprit et la parole travaillent ensemble pour nous aider dans notre progression, dans la sanctification. Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour notre sanctification, sous tous ses aspects. C'est pourquoi il s'attend à ce que cela soit manifesté dans notre vie quotidienne. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » C'est le Seigneur qui nous le demande. Comme nous l'avons mentionné, cette sanctification est progressive. 2 Corinthiens 7, verset 1. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » En achevant, ça veut dire qu'elle est progressive. On y travaille à tous les jours. La sanctification progressive s'effectue selon la volonté de Dieu par sa parole et par son esprit. C'est pourquoi chaque chrétien n'avance pas au même rythme et que les transformations ne sont pas nécessairement les mêmes de l'un à l'autre. Dieu sait exactement ce qui doit être changé, délaissé ou ajouté, puis dans quel ordre ça doit l'être. Pour chaque personne, à chaque moment de la vie du chrétien, Dieu le sait. C'est son enfant, il sait qu'est-ce qui est bon pour lui, il sait qu'est-ce qu'il doit délaisser immédiatement parce que c'est plus dangereux pour sa sanctification, ou qu'est-ce qui peut être délaissé plus tard, ou qu'est-ce qu'il doit ajouter, ou qu'est-ce qu'il doit modifier. Dieu le sait pour chacun de ses enfants. L'important, c'est qu'il y ait un changement. Parce que ce qui est certain pour tous, c'est qu'il ne faut pas rester au même point. On avance dans la vie chrétienne. On progresse dans notre sanctification. Dans le domaine naturel, lorsqu'un bébé vient au monde, ben il grandit, devient un enfant, puis un adolescent, puis un adulte. Ben c'est la même chose dans le domaine spirituel. Le nouveau converti est comme un bébé dans la foi, puis il apprend les premiers rudiments de la foi. Plus il va se nourrir de la parole de Dieu, plus il va laisser le Saint-Esprit le transformer, plus il va participer au corps de Christ, plus il va grandir, puis il va devenir un chrétien mature en Christ. Mais il faut lui laisser le temps. Puis ça va se voir à l'extérieur, dans son comportement, dans son langage, dans son habillement, dans sa manière de vivre, dans ses habitudes, ses loisirs, le choix de ses amis, dans tous les domaines de sa vie. Progressivement, on va voir les changements. Il faut qu'on voit des changements. Nous sommes tous en route vers le ciel. Notre but est tout le même. Nous nous dirigeons tous au même endroit. Nous marchons tous dans le chemin tracé par Jésus-Christ. Mais sur ce chemin, nous avons des parcours différents qui ont été préparés par Dieu afin de nous perfectionner en vue de notre arrivée à destination. On pourrait comparer cela à l'entraînement personnalisé d'un athlète olympien. 1 Pierre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est l'œuvre de Dieu, mais il faut le laisser faire. Il faut le laisser l'accomplir, cette œuvre. Ce parcours comprend des obstacles, des tentations, des épreuves, mais aussi de grandes victoires, de la joie, de l'amour, puis une paix qui est surnaturelle. Dans des moments, des fois, qui sont les plus décourageants, vous allez voir un chrétien qui va être joyeux, qui va garder sa joie, puis va garder sa paix. C'est surnaturel, parce qu'il a la foi en son Dieu. Il sait qu'il n'est pas seul, son Dieu va le sortir de cette épreuve, puis il sait que son Dieu l'a permis. Alors, il a confiance en son Dieu. Dans Jean 1, versets 2 à 4, il est écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'on doit faire pendant l'épreuve? S'en remettre entièrement à Dieu. Ne jamais, jamais douter de son amour. Jamais. Dieu a le plein contrôle sur toute chose. Il est entièrement souverain. Il contrôle tout l'univers. Ce n'est pas un petit Dieu que nous avons. Il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il l'a promis, c'est une de ses promesses. Les épreuves sont permises par Dieu pour nous fortifier et nous enseigner à dépendre de lui. En ce sens, elles concourent à notre bien, comme c'est écrit dans Romains 8, 28. Et dans Romains 1, Corinthiens 10, verset 13, nous avons, comme je disais tantôt, la promesse qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, ou l'épreuve si vous préférez, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. L'épreuve ne vient pas pour nous écraser, nous détruire. Il veut que nous supportions l'épreuve. Et il nous aide, il ne nous envoie rien au-dessus de nos forces, puis il nous donne le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter, parce qu'il a un objectif, un but à atteindre à travers cette épreuve. C'est comme ça qu'il nous fortifie dans la foi, qu'il nous fait grandir et qu'il nous fait avancer de gloire en gloire, semblable, nous rendre semblable à l'image de son Fils. Dans Romains 8, 28, on a une autre belle promesse aussi. Ça, c'est des versets qu'il faut absolument prendre par cœur, parce que c'est tellement bon, on en a tellement souvent besoin. Nous savons du reste que toute chose, pas une, toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, peu importe dans quel domaine ce soit, peu importe ce qui arrive, l'événement, la situation, ça concourt à notre bien. Dans l'épreuve, il faut s'appuyer sur les promesses de Dieu que nous trouvons dans sa parole. C'est pourquoi c'est important de lire la Bible à chaque jour. Si sur notre parcours nous tombons en cédant à la tentation, il ne faut pas paniquer. Il faut nous repentir. C'est ce que la Bible nous dit. Confesser notre péché à Dieu et reprendre notre route en délaissant le péché. Nous avons un ennemi commun qui s'appelle Satan. Puis il va toujours essayer de nous condamner et nous faire douter de l'amour de Dieu, puis de nous faire douter du pardon de Dieu. Encore une fois, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Dans 1 Jean 1,9, c'est écrit, « Si nous confessons nos péchés, » et Jean s'adressait à des chrétiens, il ne parlait pas du salut ici, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et dans Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Vous savez qu'il y a une grande différence entre être coupable et se sentir coupable. Si je suis coupable, je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne, je délaisse mon péché. Mais si je me sens toujours coupable, même après avoir confessé mon péché, avoir été pardonné de Dieu et avoir délaissé mon péché, si je me sens toujours coupable, ça c'est Satan qui vient jouer avec mes pensées. Puis il faut rejeter ça, puis il faut proclamer justement la parole 1 Jean 1, 9 que nous venons de lire, puis Romains 8, 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Satan est très retourneux. Très retourneux. Alors, ça se termine pour notre enseignement de cette semaine. Avant de commencer la période de questions, je voudrais juste partager quelque chose avec vous, parce que la semaine dernière, Delphine a mentionné qu'une collègue de travail, elle croyait un jour sauvée, toujours sauvée, puis elle disait que c'était impossible, que Dieu ne pouvait pas effacer le nom du livre de vie de quelqu'un. Ben, je vais vous apporter quelque chose, quelques versets dans la Bible. Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. Ici, on voit qu'il y a des gens que leur nom ne sera jamais inscrit dans le livre de vie, et ce, depuis la création, parce que Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Il sait qu'il y a des gens qui jamais vont l'accepter, qui vont toujours rejeter, qui vont jamais croire en lui. Alors, ces gens-là n'auront jamais eu leur nom inscrit dans le livre de vie. Autre, Apocalypse 17, verset 8. Maintenant, dans Apocalypse 3, versets 5 et 6. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il parle du vainqueur. C'est celui qui persévère dans la foi jusqu'à la fin. Il est le vainqueur. Son nom est inscrit dans le livre de vie et Dieu ne veut pas l'effacer. Ça sous-entend donc que certaines personnes, que leurs noms sont dans le livre de vie, risquent d'avoir leur nom effacé. C'est sous-entendu. Parce qu'il dit, le vainqueur, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc, celui qui ne sera pas vainqueur, son nom va être effacé. Dans Philippiens 4, verset 3, Paul écrit, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Compagnons d'œuvre de Paul ont combattu pour l'Évangile. La vie chrétienne, c'est un combat perpétuel contre les puissances des ténèbres. Mais comme Jésus a dit dans Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, son nom est inscrit dans le livre de vie parce qu'il est le vainqueur. Et eux, Paul, à ce moment-là, ils disaient, leur nom est inscrit dans le livre de vie parce qu'ils voyaient d'après leur ministère, d'après leur vie, d'après les fruits de leur vie, que oui, leur nom était inscrit dans le livre de vie. Dans Exode 32, versets 32 à 33, Moïse dit à l'Éternel, après que le peuple ait fabriqué leur veau d'or comme une idole, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Il parle du livre de vie. L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Donc, il y a des gens, oui, dont leur nom est inscrit, qui ont connu le Seigneur, mais qui ont délaissé, puis qui ne se repentent pas, qui meurent sans se repentir, sans revenir au Seigneur, leur nom va être effacé du livre de vie. Quelle est la destinée éternelle de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie? Apocalypse 20, verset 15. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Et quelle est la destinée éternelle de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie? On finit sur une bonne note. Apocalypse 21, 27. Il n'entendra chez elles, on parle de la Nouvelle Jérusalem dans le ciel, rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Merveilleuse promesse à se rappeler quand on est dans les difficultés, dans les épreuves. Cela nous redonne du courage de penser à ce qui nous attend là-haut, la nouvelle Jérusalem céleste. C'est là que le Seigneur nous attend. Alléluia.